C'est une question de bonne volonté, en fait, l'insertion de tout le monde, quoi. Voilà.
Et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de La Petite Bête sur le fil. Cette semaine, La Petite Bête ira explorer à l'occasion de la journée du transport public, de la fête de la mobilité, le volet mobilité et insertion. Autour de nos micros pour réaliser cette émission, nous avons Marie-Frédérique Bonin, responsable du secteur l'auto-école permis pour l'avenir de la MJC Bel et Bas. Bonjour Marie-Frédérique.
Bonjour.
Voilà, n'hésitez pas à rapprocher le micro, le mettre en face de vous. Nous avons Olivier Etoiti, directeur de l'association IFER. Bonjour à vous.
Bonjour à tout le monde.
Et nous avons Fatima Ait Welal, directrice de la plateforme de mobilité récemment rebaptisée WeMove. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, au-delà d'être la directrice de la plateforme WeMove, vous avez également sur cette émission contribué à la préparation et à la préparation et la constitution des invités du plateau de ce soir. Merci à vous.
Je remercie aussi les participants, bien évidemment, et merci à toi.
Et ben voilà, dans cette émission qui va nous emmener jusqu'à 22h30, voilà, je suis en train d'attraper mes souris pour pouvoir vous dire tout ça. Dans cette émission qui va nous emmener jusqu'à 22h30, nous parlerons bien entendu mobilité et insertion. Ce sont les deux sujets, ou plus exactement le même sujet qui va nous tenir jusque-là. Nous aurons des reportages tournés hier par Hacquet dans les rues hébroïciennes. Nous parlerons mobilité, partenariat, quelques chiffres sur Évreux et au national éventuellement. Nous parlerons également des freins de cette insertion. Est-ce que la mobilité fait partie des freins d'une insertion professionnelle, sociale? Est-ce que ça fait partie des freins à l'épanouissement, en tout cas? Nous parlerons de transport en commun, de transport partagé, d'autonomie, de difficultés en tout genre. Et puis, bien entendu, nous parlerons de cette fête de la mobilité, si ça vous convient, bien entendu. Oui, ça fait beaucoup de choses d'un seul coup, mais rassurez-vous, nous prendrons les thèmes un par un. Nous devrions normalement également avoir un témoignage téléphonique en cours de route par une personne qui est passée par un circuit d'accompagnement à la mobilité. Si j'ai bien tout suivi, Fatima, c'est cela?
Oui, c'est bien ça.
Eh bien, c'est plutôt parfait. Alors, nous voilà parés pour cette heure qui nous attend devant nous. On va commencer peut-être à présenter vos structures plus précisément, que les auditeurs aient une idée assez claire du travail que vous faites chacun de votre côté et puis du travail que vous réalisez ensemble. J'ai envie de commencer par vous, Marie-Frédérique, vous qui travaillez pour la MJC Bel et Bas sur le secteur permis pour l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette section, le permis pour l'avenir?
Alors, le permis pour l'avenir, c'est avant tout effectivement un secteur de la MJC d'Évreux, la Maison des Jeunes et de la Culture. L'auto-école associative a pour but de former au permis de conduire des gens qui sont en insertion professionnelle. Nous avons deux axes sur lesquels on travaille. La pédagogie, c'est-à-dire que le parcours est adapté en fonction du niveau de chacun. Et on propose également un tarif plutôt préférentiel.
C'est-à-dire que c'est adapté pour chacun. C'est qu'en fait, dans les auto-écoles classiques, l'apprentissage ne serait pas forcément adapté pour tout le monde, où il n'y aurait pas cet effort d'adaptation. Et du coup, question subsidiaire, comment est-ce qu'on adapte un apprentissage de la conduite?
Alors effectivement, le travail est différent de celui qu'on peut rencontrer dans une auto-école commerciale, puisque Les gens sont dans un premier temps évalués chez nous. L'idée, c'est de vérifier s'ils sont en capacité d'entrer directement en formation de code. Si ce n'est pas le cas, on leur propose un parcours, à savoir une orientation vers éducation et formation, par exemple, pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, ou tout simplement une remise à niveau français, mathématiques de base, puisqu'aujourd'hui, l'apprentissage du code de la route n'est pas si simple. Voilà, ça c'est pour la partie code. Et pour la partie conduite, on travaille avec des formateurs qui sont armés de patience et qui sont capables de former des gens sur 100 ou 150 heures de conduite.
Ah oui, carrément, ça peut aller bien au-delà du
tout à fait.
Je dirais des 20 heures standards, c'est peut-être plus 20 heures d'ailleurs,
alors,
je ne sais plus.
20 heures, c'est ce qu'ont les gens en tête, puisque c'est le minimum légal obligatoire par la loi pour passer son permis de conduire. Mais bien évidemment, peu de gens sont en capacité de passer le permis de conduire avec 20 heures.
Vous évoquiez la notion d'insertion professionnelle. Comment ça se traduit une personne qui est dans une démarche d'insertion professionnelle?
Alors en fait, quand
est-ce que c'est juste un chercheur d'emploi, par exemple?
Alors, ce n'est pas juste un chercheur d'emploi, il y a tout un travail qui est fait en amont et après également. Mais nous, en fait, on accueille les personnes uniquement sur prescription. C'est-à-dire que les gens sont forcément suivis dans le cadre de leur projet professionnel par un travailleur social. Et c'est le travailleur social qui décide de l'orienter vers le permis de conduire, puisque c'est un frein dans son insertion professionnelle.
Olivier, directeur de l'association IFER, qui travaille également sur la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous parler des missions de l'association IFER et comment ça se met en place?
Alors, IFER est une association qui existe depuis 20 ans maintenant, sur Évaux d'abord et ensuite sur Louviers depuis plusieurs années. L'objet principal de l'association, c'est l'aide à la mobilité. Donc cette aide à la mobilité, on la décline en plusieurs actions. La plus rapide et la plus concrète, c'est la location de cyclos. On a 70 cyclos qui circulent sur le territoire du GEA, de Louviers à Val-de-Reuil, et des fois un peu au-dessus, pour permettre aux gens qui n'ont pas de moyens de locomotion de pouvoir se rendre à un emploi, une formation, ou pour ressortir aussi de leur isolement. Pour certaines personnes qui sont plutôt en milieu rural. Cette action-là est comme pour le permis pour l'avenir, c'est sur prescription, donc on ne reçoit pas le public directement pour cette action-là, c'est les travailleurs sociaux qui nous les amènent, qui nous les adressent. C'est pas réservé, c'est un peu toutes les tranches de personnes en difficulté, donc aussi bien les jeunes que les adultes, aussi bien les hommes que les femmes. Et en fonction des particularités de chacun, eh ben, on essaie d'amener le meilleur véhicule en fonction du besoin. C'est-à-dire qu'on a à la fois des cyclos, à la fois des scooters, et en fonction des besoins de la personne, du trajet qu'elles ont à faire, on met tel ou tel véhicule à ma disposition. Pour faire ça aussi, on a un atelier de roues, enfin deux, puisqu'on a aussi le Malouvier, un peu sur le principe du garage social. Les gens adhèrent à l'association et peuvent venir entretenir et réparer leur propre engin.
Alors ça, c'est sur prescription ou ouvert à tous?
Ça, au contraire de la location, on est ouvert à tous pour justement faire un lieu de brassage et un lieu de mouvement où différents types de populations puissent se rencontrer. Aussi bien des gens en insertion que des scolaires, que des jeunes salariés, on a aussi des personnes à la retraite qu'on est cyclo depuis des années et qui continuent à rouler en deux roues et qui viennent l'entretenir chez nous. Avec quelques contraintes, il faut que les véhicules soient assurés, ils ressortent que quand ils sont en état, on ne vend pas de pièces, c'est les professionnels qui doivent acheter des pièces auprès des professionnels. Voilà, un certain nombre de contraintes. On travaille aussi sur la prévention, les nuisances sonores, les kits, tout ça pour permettre aux gens, notamment des plus jeunes, de rouler sur des véhicules qui sont conformes à un usage routier.
Vous parliez de location de cyclos. J'imagine que ce n'est pas comme dans un autre loueur standard où il y a eu une adaptation des prix,
oui.
des conditions.
On est calqué en gros sur le coût moyen du transport en commun. C'est-à-dire qu'on est parti du principe qu'on a déconnecté le coût réel du parc locatif à la charge du bénéficiaire. En gros, par mois, c'est 25 euros. À la semaine, c'est 8 euros. À ça, on vient rajouter les 10 euros d'adhésion à l'association et une caution qui est restituée après, quand le véhicule est rendu en bon état. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est important parce que les coûts financiers sont toujours importants pour les publics en difficulté. Et du coup, on essaie de ramener au maximum pour qu'ils puissent être abordables.
Fatima, alors vous êtes la directrice de la plateforme de mobilité WeMove.
C'est bien ça.
N'hésitez pas à déplacer le micro. Je vois que c'est vous qui êtes en train de vous déplacer voilà, devant le micro. C'est le micro qui doit se déplacer. Hein.
Ok.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette plateforme et quelles sont les missions de cette plateforme?
Alors, dans un premier temps, je tiens à dire que la plateforme préexistait à l'arrivée de WeMove et était constituée, était portée par le Grand Évreux Agglomération. Et pendant 3 ans, avec la participation des opérateurs mobilité du territoire, notamment l'association IFER, l'association MJC Permis pour l'Avenir, l'association Cicérone, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, Éducation et Formation, la Maison de l'Emploi également, la MD3E. Voilà, donc c'est déjà un travail qui avait été initié et porté pendant 3 années, où il y a eu énormément d'actions qui ont pu être mises en place et être soutenues. Donc l'association WeMove est arrivée au mois d'octobre 2013 pour pouvoir prendre le relais, et notamment dans la dimension où, pour l'extension et la pérennité des actions et du financement des actions, le Grand Évreux Agglomération avait pris contact avec des grandes structures qui nous soutiennent au niveau national et qui les avaient renvoyées vers l'association Voiture Éco, qui est devenue en effet l'association WeMove. Donc voilà déjà historiquement pour dire qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Les associations ici présentes sont aussi sur le territoire depuis de très nombreuses années, voilà, avec des actions qui ont montré leur efficacité jusque-là. Et le but de cette plateforme, c'est tout simplement de pouvoir coordonner les actions, de pouvoir les promouvoir, de permettre aussi l'accès... un peu plus de l'information auprès du public, et aussi, surtout, comme je disais, puisque c'est une association nationale, de pouvoir faire participer d'autres acteurs dans le champ de la mobilité et de l'insertion, que sont de grands groupes, de grandes entreprises, des instances publiques, pour que chacun, à son niveau, puisse aussi être des leviers et puissent soutenir les personnes dans leurs problématiques, dans les freins à l'insertion et dans leur situation de précarité.
Dans les publics que vous recevez, vous, sur la plateforme, est-ce que ce sont des gens qu'on vous envoie ou c'est une ouverture au public aussi? Parce que vous dites au bout d'un moment, bah voilà, c'est aussi communiquer pour que le plus grand nombre connaisse notre existence. Mais finalement, si votre public est ce qu'on appelle sous prescription, c'est le réseau en fait, de professionnels qui doit être bien informé plus que le grand public.
Alors oui, en effet, je fonctionne aussi sous forme de prescription. Les personnes sont bien évidemment accompagnées par des travailleurs sociaux ou des conseillers en insertion professionnelle. Et l'objectif, en fait, la seule chose, la première des choses, c'est qu'on propose un bilan de compétences mobilité. Donc, qui permet justement de pouvoir analyser les besoins et pouvoir avoir des entretiens qui sont un peu longs en effet, mais qui permettent vraiment d'avoir une vision et une analyse proche des besoins de la personne. L'idée aussi, c'est de proposer un accompagnement dans cette démarche, dans un parcours mobilité. Donc, bien souvent, c'est vrai que lorsqu'on est en accompagnement de l'insertion de la personne, il y a tellement de problématiques qui sont soulevées par rapport à la situation, que la mobilité est quelquefois abordée à un moment du parcours où la personne a besoin de se déplacer pour un emploi ou de se déplacer pour entrer en formation. Et ce qu'on propose, c'est justement de pouvoir travailler ça en amont, dès le début de l'accompagnement, et de pouvoir être un relais par rapport aux opérateurs du territoire, en fait, et de pouvoir faire les orientations en amont. De proposer, par exemple, puisqu'on parle de la mobilité, le permis de conduire, on peut, par exemple, dans un parcours, déjà l'envoyer, parce que M. Etoiti, je ne sais pas s'il a parlé des actions de formation qu'il fait. Non,
mais on pourra le faire après, ça.
Voilà. Donc voilà, de pouvoir permettre vraiment de faire un parcours qui soit évolutif pour la personne, pour qu'elle puisse aussi être dans une réflexion et quelquefois ne pas avoir l'idée d'attendre de passer son permis de conduire pour forcément pouvoir se déplacer, s'insérer socialement. Voilà. L'autre chose aussi, c'est, dans cette plateforme, l'idée, c'est de pouvoir faire converger les idées et les constats de chacun pour pouvoir proposer des idées innovantes, on va dire, ou de développer d'autres solutions, quelquefois auxquelles on n'a pas pensé quand on travaille seul dans son coin. Voilà, c'est vraiment ça, l'idée de la plateforme mobilité.
Dans les missions que vous nous décrivez, tous les trois, au sein de vos structures, il y a quand même, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ce sont des compétences de collectivité quand même, d'assurer un soutien à la mobilité, d'assurer tous ces volets autour de l'insertion, en tout cas toutes les étapes nécessaires à l'insertion. Est-ce qu'il y a des contrats de délégation de services ou je sais pas quoi entre les collectivités territoriales ou nationales, je sais pas, et vos structures? Est-ce qu'il existe des contrats ou des liens entre vos structures et l'administration de manière générale?
C'est assez... En théorie, ça devrait être ça.
D'accord, en théorie, ça devrait être ça.
Concrètement, moi, j'estime qu'on est presque de la délégation de services publics.
Je n'osais pas employer le terme.
Voilà. Après, effectivement, on est sur des publics spécifiques souvent, qu'on essaie d'ouvrir, hein, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas en difficulté qu'on ne peut pas y être le lendemain. Donc, effectivement, il faut quand même avoir une ouverture d'esprit. Mais... pour reconnaître quand même qu'on a quand même du mal à avoir ce statut ou cette reconnaissance de service public, entre guillemets. Et il y a des fois, on nous enferme dans un espèce de ghetto insertion, point final, alors qu'en fait, c'est qu'une partie de la population, mais c'est du service public, oui.
D'autres remarques sur ce thème ? Alors, je vous propose tout de suite qu'on fasse une première pause musicale et nous reviendrons derrière pour définir un peu plus concrètement et peut-être illustrer avec des exemples ces questions de mobilité. Brahim Malouf, extrait de l'album Illusion, si je ne m'abuse. C'est pas le genre de la maison de s'abuser, hein, vous savez. Donc nous sommes toujours en direct, c'est la petite bête sur le fil. Nous parlons aujourd'hui de mobilité et d'insertion. Nous avons autour des micros pour échanger sur ces sujets même. Marie-Frédérique Bonin, responsable du secteur Un permis pour l'avenir à l'MJC Le Bel et Bas d'Evreux. Vous voyez, finalement, c'est pas dans les titres que vous avez, la noblesse, c'est dans la structure finalement, non?
C'est ça, exactement.
Nous avons Fatima Aït Wellal, directrice de la plateforme de mobilité WeMove, et Olivier Etouati, directeur de l'association IFER. Nous étions en train de parler mobilité juste avant, un petit peu comment vous interveniez au sein de vos structures. Comment est-ce que vous définiriez, vous, le besoin auquel vous répondez de mobilité? Enfin, quel est cet enjeu de mobilité? Comment vous le définiriez?
Alors moi, je vais parler de ce que je connais au permis pour l'avenir. On voit bien que quand les gens nous sont orientés, effectivement, le problème de mobilité, il peut être un problème de permis de conduire, tout simplement, mais il peut être aussi un problème de mobilité mentale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'imaginent pas se déplacer de toute façon hors du lieu où ils habitent. Donc nous, au permis pour l'avenir, on traite essentiellement le permis de conduire, c'est-à-dire qu'on forme au permis de conduire dans le champ de l'insertion professionnelle, mais on voit bien que le permis de conduire ne sert pas uniquement à aller travailler, hein, mais évidemment, crée du lien social, permet aux personnes de partir en vacances, de faire une activité, d'emmener les enfants à des activités, de faire les courses aussi, ça paraît bête, mais c'est essentiel.
C'est important, hein.
Il y a beaucoup de gens qui nous disent quel soulagement d'aller faire ses courses avec une voiture. Donc effectivement, nous, on est sur le champ de l'insertion professionnelle, parce que c'est lié à nos financements, mais on sait aussi qu'on fait de l'insertion sociale.
Oui, et puis le permis, c'est aussi, pour certains, c'est le premier diplôme.
Oui, ce qui n'est pas rien.
C'est une, voilà, ça peut être une vraie fierté pour certains.
J'imagine qu'il doit avoir des réactions parfois même touchantes, parce que quand vous nous dites, voilà, on peut aller jusqu'à 100, 150 heures de conduite ou de temps pour passer le code, des temps qui ne sont pas pris dans les écoles ordinaires, dans les écoles de conduite ordinaires. Du coup, ces personnes-là, peut-être, sont passées pour certaines dans les écoles de conduite ordinaire et avaient déjà jeté l'éponge, j'imagine.
Parfois, oui, elles viennent d'auto-écoles traditionnelles, et même quand elles ne sont pas passées par une auto-école traditionnelle, le fait effectivement qu'on passe du temps avec eux, et beaucoup de temps avec eux, ça crée un lien forcément avec le formateur. Et comme le disait Olivier, c'est pour certains le premier diplôme de leur vie. Et les réactions sont assez rigolotes parfois, parce qu'effectivement, quand ils apprennent qu'ils ont eu l'examen de code ou même l'examen de conduite, c'est assez rigolo pour nous. Et surtout, il y a une reconnaissance qui est assez impressionnante. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas une semaine au permis pour l'avenir sans qu'on mange un plat différent, ou que les gens passent nous voir avec des croissants, ou juste parce qu'ils ont envie de nous remercier, même si à longueur d'année on leur dit qu'on est là pour ça et que c'est notre travail de le faire. Voilà, il y a une reconnaissance assez importante, et des réactions effectivement très... J'ai une anecdote par exemple à la maison d'arrêt, puisqu'on intervient également à la maison d'arrêt pour des sessions de code de la route. La dernière session, l'ensemble des détenus ont obtenu le code de la route, et les surveillants étaient obligés d'intervenir en fait, parce qu'ils couraient partout dans les couloirs, et ça a créé un bazar monstrueux. Donc voilà, ils sont en général reconnaissants et ravis d'obtenir enfin un diplôme.
Oui, parce que certains ont peut-être déjà renoncé en disant « bon, ce ne sera pas pour moi, jamais je le passerai ».
Exactement, c'est-à-dire que quand on est en salle de code, on l'a vécu. Hein. Moi, par exemple, qui suis passée par une auto-école traditionnelle, il faut travailler bien souvent seul. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler seul et de réviser à la maison. D'être présent toutes les semaines dans la salle de code quand personne vous y oblige. Alors que chez nous, il y a effectivement cette obligation d'être présent chaque jour à des heures précises, de réviser les cours pour le lendemain, de prendre des notes. Il y a toujours un formateur qui les accompagne dans la salle. Donc effectivement, le suivi est complètement différent. On leur demande un investissement qui n'est pas le même qu'en auto-école traditionnelle.
Olivier, chez IFER, comment est-ce qu'on appréhende cette notion de mobilité?
Alors, un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'on a la mobilité physique, on a un problème de déplacement, de se rendre d'un point A à un point B. Ça veut dire qu'on a déjà l'avancée, hein, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un problème de déplacement, ce qui n'est pas le tout le monde. Et on a identifié déjà une partie du problème. Mais on se retrouve quand même avec un certain nombre de personnes qui ne sont pas là et où intervient le côté cognitif et le côté mental de la mobilité. C'est-à-dire qu'on a beau avoir tous les moyens de transport qu'on veut, le véhicule, le permis, tout bien, si on n'a pas envie de se déplacer et si on n'a pas cette capacité à aller vers les autres et faire le mouvement, eh ben on reste chez soi et on s'enferme. Donc effectivement, on développe notamment des petits modules mobilité qui permettent aux gens de travailler à la fois sur la gestion du transport en commun. C'est-à-dire, il y a effectivement le transport en commun, ça peut nous paraître évident, ça ne l'est pas forcément. Il y a des codes, des règles. Voilà, la lecture de plan, si on sait pas, si on a des difficultés avec l'écriture, par exemple, ou avec la lecture, ben, c'est pas si simple que ça. Calculer un temps de parcours, c'est pas forcément très évident. Donc, on travaille un petit peu ça sur des choses un peu pratiques, un peu basiques, qui permettent aux gens d'être un petit peu plus à l'aise sur le transport en commun. Et on travaille aussi sur les freins. On leur montre que la mobilité, c'est pas seulement que des véhicules et c'est pas que du physique. Et qu'on a besoin du mental et c'est ce qui nous fait avancer, avant tout.
Vous abordez un petit peu la chose de Paris-Mont, Fatima ?
Oui, moi je rejoins tout à fait ce qui est dit jusque-là. C'est vrai que beaucoup de spécialistes dans les structures pour la mobilité vont parler de plus de problèmes matériels, par exemple pour se déplacer, c'est-à-dire une voiture, un permis, mais il y a aussi pour les publics notamment qu'on dit précaires, on parle aussi de compétences et de compétences psychosociales, c'est-à-dire qu'avec un cumul dans les parcours de vie où on a pas mal de choses à traiter ou à aborder, notamment la situation financière, quelquefois qui est problématique, le quotidien, la recherche d'un emploi, il y a des compétences qu'on ne mobilise plus. Et du coup, on se retrouve dans une forme d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on n'a plus une visibilité de son déplacement dans l'espace, c'est-à-dire tout se restreint, on est dans son quartier, on est dans un lieu où on a l'habitude de se mouvoir, et en fait, la personne, c'est de remobiliser un petit peu par le biais, comme fait y faire dans ses ateliers, c'est-à-dire l'expérientiel, c'est-à-dire expérimenter un transport et sortir hors les murs de son quartier, de sa ville, pour justement retrouver ce possible. Souvent on dit oui, c'est quand on veut qu'on peut. Je le prends pour moi, en tout cas je dis c'est quand on peut qu'on veut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne va réexpérimenter un mode de déplacement différent, va aller dans une autre ville, va se sentir justement cette capacité à faire, elle va vouloir le faire. Et donc cet accompagnement justement que font les associations, c'est ça, aussi bien avec le permis pour l'avenir, avec le temps qui est pris dans cet accompagnement qui est vraiment personnalisé, aussi bien dans les entretiens qu'on peut faire, puisqu'on peut aussi nous accompagner les personnes physiquement dans le transport en commun, ou alors justement lorsqu'ils ont des résistances, parce qu'il y a beaucoup de résistances, en disant « ah non mais moi, le deux roues, je me vois pas en faire », ou en discutant avec eux, en disant « écoutez, il y a une association qui est là, qui va vraiment prendre ce temps-là avec vous, qui va pouvoir vous accompagner pour que vous puissiez l'expérimenter », elles vont aller vers ces acteurs-là. Donc on a aussi ce rôle-là de pouvoir les motiver, de travailler sur ces compétences-là, de leur dire que c'est possible et au moins d'essayer. La vélo-école, par exemple, de Cicérone, c'est aussi un très bon outil. Quand on a des personnes qui n'ont jamais fait de vélo, même si au départ, en effet, c'est pas pour accéder à l'emploi, mais c'est reprendre confiance en soi, de pouvoir utiliser un deux roues, de pouvoir être accompagné, de pouvoir se déplacer puis être fier de soi. Que ce soit en obtenant son permis, c'est vrai que c'est une fierté, c'est une valorisation. C'est aussi lorsqu'on a la chance de pouvoir rouler en scooter ou en mobylette. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, sur cette possibilité de pouvoir se mouvoir, on va dire, la mobilité, de se déplacer, d'aller au-delà de son lieu. Autre chose aussi, quand on parle de mobilité ou de déplacement, c'est aussi tout ce qui est se repérer dans son quartier, savoir où trouver un lieu quand on a un rendez-vous. Donc tout ça, c'est traité dans les ateliers d'IFER aussi. Et nous, on essaie aussi de l'aborder avec les personnes et de pouvoir en parler.
Moi, il y a un élément qui me frappe dans les présentations que vous faites de comment vous abordez la mobilité, c'est que vous l'abordez comme une compétence, voilà, comme étant quelque chose qui s'apprend, moi qui n'ai jamais eu de problème de mobilité, a priori, en tout cas, j'en ai pas repéré, j'ai l'impression que c'est inné, qu'il suffit de monter dans le bus pour aller quelque part, qu'il suffit de s'inscrire dans une auto-école pour obtenir son permis, peut-être à la deuxième fois ou à la troisième fois si vraiment il y a des difficultés. Enfin, voilà, ça peut être la représentation que je peux avoir, moi qui, a priori, n'ai pas de difficultés de mobilité. Pour moi, ce serait inné. Et vous, en fait, vous êtes en train de nous dire depuis tout à l'heure que c'est une compétence. Et qui dit compétence dit apprentissage. C'est vraiment cette façon d'aborder les choses.
C'est apprentissage ou c'est réapprentissage. Parce que je pense qu'on est tous mobiles. Voilà, on est mobile, on est avec deux jambes, on est avec un cerveau, donc on est mobile. Après, la vie fait qu'on peut se renfermer sur soi-même. Et plus on se renferme, et moins on a envie de bouger. Et c'est un peu le cercle vicieux. Donc, effectivement, la mobilité, pour certains, elle paraît innée parce qu'on a toujours vécu avec aussi. Hein, je veux dire, c'est aussi ça. Hein, si on a eu un problème un jour de déplacement et qu'on l'a solutionné hein, parce qu'on a eu l'info là où il fallait, on l'a solutionné et du coup, ça ne nous paraît pas difficile. Par contre, si on est soumis à un problème de déplacement et que on sait pas où trouver l'info ou qu'on sait pas comment faire, on a plutôt tendance à se replier et on entame plutôt sur quelque chose de pas très positif.
Ouais, moi je pense aussi que c'est une compétence dans la mesure où en effet, c'est vrai que on prend même dès le jeune âge un enfant qui a été habitué à prendre un transport en commun. Parce que les parents vont l'habituer pour X ou Y raison. Des personnes qui ont l'habitude de se déplacer, aller à des endroits, ça va être plus facile pour eux plus tard. Mais je pense qu'en effet, c'est aussi culturel peut-être, je me permettrai de le dire, je ne sais pas, c'est une réflexion que je me fais. C'est vrai que accompagner nos enfants en voiture, c'est beaucoup plus pratique, on les dépose à l'entrée de l'école, jusqu'à un certain âge quelquefois, et c'est vrai que si... moi je le dis en tant que parent, c'est vrai que j'ai un enfant qui est adolescent et j'ai très vite compris que c'était facile pour moi d'aller le déposer à ses activités à l'école et j'ai pris le parti de une carte de bus et de lui expliquer comment ça fonctionne parce que c'est aussi rigolo parce que quand on dit pour le permis, moi j'ai eu des anecdotes où mon enfant part et il me dit le bus s'arrête à donc des Évreux va s'arrêter à la forêt, donc lui apprendre aussi les arrêts de bus, où est-ce qu'elle doit descendre, les correspondances qu'elle doit prendre, et l'amener à ce qu'elle soit elle maintenant, qu'elle utilise sa carte à tout mode et qu'elle puisse se déplacer sur le territoire de manière facile parce qu'elle sait comment faire, c'est qu'il y a un site aussi, le site à tout mode où elle peut rentrer l'adresse et pouvoir se déplacer, et du coup c'est vrai que c'est aussi un apprentissage. On pense que c'est inné, mais je pense que c'est un apprentissage. On prend rien que pour nous... On n'est pas très loin de Paris. Quand on parle du train ou du métro ou du RER, c'est impensable de pouvoir se déplacer dans Paris quand on vient de la province, quelquefois, pour les personnes. Alors que c'est un apprentissage pour prendre le métro, le RER, les correspondances, le bus, savoir où... Voilà, je parlais encore une fois d'une lecture, une lecture géographique, c'est vraiment ça. Moi, je pense que c'est un apprentissage.
Très bien. Eh bien, si vous n'avez rien à ajouter, par exemple Marie-Frédérique, à qui je n'ai pas proposé la parole là, mais vous aviez l'air de ne pas contester.
Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, moi, je pense que la mobilité, ça s'apprend, ça s'acquiert. Et quand on a eu la chance, effectivement, d'être mobile dès le plus jeune âge, c'est-à-dire de prendre le bus avec les parents, d'avoir une voiture dès le plus jeune âge, de se déplacer, de partir en vacances, etc. On sait ce que c'est que d'être mobile. C'est pas la chance... que tout le monde a pu avoir. Et puis pour certains, même si on l'a eu à un moment donné, on a pu la perdre pour des raisons et des situations parfois compliquées. Et donc, effectivement, il faut le réapprendre.
J'irais même jusqu'à dire que la mobilité, c'est un état d'esprit aussi. Voilà. Je pense que c'est pas gratuit. Et les gens qui sont vraiment mobiles sont souvent des gens qui sont ouverts et qui vont vers les autres. Donc, il y a une cause à effet qui est pas... Alors, est-ce que scientifiquement, elle est prouvée ? J'en sais rien, mais on le voit souvent sur le rapport humain. Les gens qui sont ouverts et qui ont tendance à aller vers les autres, c'est souvent des gens qui, dans leur esprit, sont prêts à ça.
Et a priori, juste un peu en amont, ils ont une certaine assurance. En tout cas, voilà.
Voilà, mais ça fait un tout.
Complètement. Je vous propose une pause musicale et puis nous poursuivons nos échanges juste après.
Right now I'm about to drop something that will lock the whole world. Believe me, to go on at Jamaica already.
Long time. I'm it. Let a white to the tea alongside Chinese man. Big on the bank and tie with them tea and the big bad mighty Johnny Asburn. Take it to them, our independence we say. Straight.
Freedom we say. Free speech, free movement. I don't know, independence. World independence record. And we are say, running from yard.
Make it free up the drum, we say free up the bass, free up the rhythm, make me nice up the place, free up the words and the power and sound. I strictly play the music that's around the town. They say, whoa,
spread vibes, more love, no stress. Do it our way, everything blessed. 10 years in the business, still independent. Who know here for we style, who know here nothing yet. Coming in every year, watch how we sweat. Chop on the bass and mash it up. Select, I want you pull it up. Feeling the vibes of the world and the family, the Chinese in the area. Come follow, we know we bust it fast, we're not ready yet. Back in the days, we listen reggae music on cassette. Nowadays, radio DJs happy play it. Roots, we are the bands, we are the lead, we are the stem. The other way together, we are independent. We no bragger, we no boss, we are singer, we are toast. Freedom music is we are promote.
I make a free up the drum, I say free up the bass, free up the rhythm, make we nice up the place, free up the words and the power and sound. I strictly play the music, I go round the town.
By yourself, don't wait for nobody else. You can make it happen, only you can make it happen by yourself. Don't let me leave you by the shelf. Only you can make it happen, only you can make it one. Set a one a thing, a million one a plant farm. You can make it happen, and the limit is the sky. Some of them want to stop you, tell them to try. Because the more they try to stop we use, the more we go harder. I don't for them, they want to see we cross the border. Then the one we make it, the one we hungry and mad. But we reach this far through the grace of the Father.
I beg you, free up the drum, they say free up the bass, free up the rhythm, make we nice up the place, free up the words and the power and sound. I strictly play the music, I go round the town, they say, whoa.
Avec le titre Independent Music. Je vous le disais en début d'émission, Ake a laissé traîner, errer son micro dans les rues hébroïciennes. Elle a posé... Mais non, moi, je ne vais pas vous dire c'est quoi la question. Elle doit la poser au début de son sujet, normalement, si ça a été bien réalisé. En tout cas, elle s'est posée des questions autour de l'insertion, des freins d'insertion et de la mobilité. Je vous propose d'écouter le premier volet.
Bonjour.
Bonjour.
Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que vous entendez dans l'insertion en général.
L'insertion des personnes.
Jusque
au sein de la ville?
Alors l'insertion en général, enfin dans la vie, surtout au niveau de, parce que moi je vais parler dans l'insertion de mon point de vue, parce que je suis un enfant issu de l'immigration, donc l'immigration choisie. Donc l'insertion au niveau de la société, c'est vraiment s'intégrer et se sentir chez soi en gros. Ce qui n'est pas toujours facile dans la société actuelle avec tout ce qui se passe en ce moment.
L'insertion, c'est de réinsérer des gens dans la vie active, de leur donner une nouvelle chance dans un nouveau métier, soit des jeunes, soit des personnes un peu plus âgées.
Ouais, l'insertion, pour moi, c'est venir en aide aux gens en difficulté déjà. Et il y a des associations qui s'en occupent, je pense. Et puis, heureusement qu'il y a des associations qui s'en occupent, parce que sinon...
Alors, dans l'insertion, moi, je pense déjà aux jeunes qui cherchent du boulot, forcément. Hein. Insertion, je pense aussi aux étrangers, hein, aussi, forcément, qui ont du mal aussi à s'intégrer à la France, déjà. Hein. Quoi d'autre, insertion pour moi, c'est là ce que j'ai en tête, surtout en ce moment avec la crise, etc., avec tout ce qui passe aux infos. Pour moi, en ce moment, c'est ça, ouais. Insertion, ça représente ça.
L'insertion générale, c'est pour évoluer dans la vie professionnelle et pour s'insérer dans la société.
Voilà, c'était les propos recueillis par Hacquet dans les rues hébroïciennes. C'est tout frais, c'est d'hier. Des réactions par rapport à ce que nous venons d'entendre?
Oui, vite fait, on parle d'insertion professionnelle. C'est vrai que pour beaucoup, l'insertion, c'est lié à l'emploi, c'est lié au cadre. Une personne doit travailler pour être insérée. Pas toujours le cas, c'est pas aussi simple, mais c'est un petit peu la vie générale. Hein, on le voit bien avec ce petit sondage. C'est pas toujours aussi simple, mais c'est un petit peu ça. Et puis insertion, ça fait surtout, comme l'a dit une demoiselle là, sur le sondage, les jeunes et les étrangers. C'est pas aussi simple que ça. C'est souvent ceux qui sont montrés du doigt, entre guillemets. C'est pas forcément la population. C'est pas que ces deux populations-là.
Est-ce que c'est quand même des populations que vous retrouvez, les jeunes et les personnes issues de l'immigration, majoritairement dans les gens que vous rencontrez? Est-ce que c'est des publics peut-être moins équipés pour affronter la vie professionnelle, sociale et générale?
Bah oui, et puis le jeune, il démarre dans la vie professionnelle, donc il y a forcément
moins bien équipé,
donc il y en a qui partent avec plus de difficultés que d'autres. Voilà.
Alors moi, effectivement, les jeunes, c'est pas forcément le public du permis pour l'avenir. On est plus sur une tranche d'âge autour de 30-35 ans, je dirais, voire plus. Parce que les jeunes, et on le sait, des fois au niveau de la formation de code par exemple, en plus de faciliter à réviser seul, à se mettre dans un rythme, puisqu'ils sont encore pour certains dans un rythme scolaire. Donc voilà, c'est pas forcément notre public. Le public issu de l'immigration, effectivement, ça fait partie de nos publics. D'autant plus que sur la formation de conduite, je vais parler pour des personnes qui, par exemple, n'auraient pas du tout connu le véhicule dans l'enfance, qui n'est jamais monté dans une voiture ou qui ne sait pas comment attacher sa ceinture ou ouvrir une vitre de voiture. Forcément, pour ces personnes-là, ça va demander un accompagnement particulier et beaucoup plus de temps.
Très bien. Sur les réflexions, peut-être un mot, non, Fatima, sur ce que nous avons écouté.
Oui, en fait, je pense que c'est aussi une commande de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'insérer, c'est répondre à une commande sociétale. Pourquoi je dis ça? Tout simplement qu'on parle de lien social. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas une profession ou n'est pas qui n'est pas employé, enfin le mot qu'on emploie, l'employabilité, quelqu'un qui n'a pas d'activité, de loisirs ou des choses comme ça, même ne serait-ce que pour créer du lien social, se retrouve en difficulté. Donc là, on peut parler d'une commande sociétale. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un d'inséré, c'est quelqu'un qui a un emploi, quelqu'un qui a un logement, quelqu'un qui a une famille, quelqu'un, voilà, il répond à des codes, tout simplement. Donc, tout à l'heure, je parlais de la mobilité comme culturelle, tout simplement. On regarde un peu ce qui se passe dans les pays émergents. Aujourd'hui, on promouvoit la mobilité, l'écomobilité dans les territoires, dans les pays développés, on va dire. Donc, tout ce qui est justement le vélo, le transport en commun. Quand on regarde bien au niveau de l'histoire, les pays en voie de développement sont aujourd'hui les lieux où sont installées les grandes firmes automobiles et qui vont vers la voiture. Et nous, on revient vers des modes comme le covoiturage, enfin, tout ce qui peut créer du lien social. Je pense que, voilà, quand on parle d'insertion, ça dépend de quelle casquette est-ce qu'on a, parce qu'on peut parler de l'insertion professionnelle, mais de l'insertion sociale. Quand on parle d'insertion, c'est aussi sous quelle casquette est-ce qu'on est justement un accompagnateur d'insertion professionnelle ? Est-ce qu'on travaille dans le champ du social ? Est-ce qu'on travaille dans le champ du médico-social ? Est-ce qu'on parle dans le champ du sanitaire ? Enfin voilà, c'est vraiment une casquette et une commande de la société, voilà, ce terme-là. Moi.
Olivier.
Ouais, juste, il y avait une remarque qui était très, 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 très belle de dire qu'en fait, l'insertion, c'est quand on est bien.
Alors justement, vous travaillez sur l'insertion, par l'entrée mobilité notamment, mais vous travaillez sur l'insertion. Comment vous la définissez ? À partir de quel moment votre boulot est fini ? Est-ce que il y a, je sais pas, un marqueur quelque part qui dit bon bah ça y est, l'insertion est réussie. Je sais pas si on peut dire réussie, mais en tout cas on a été au bout du cycle d'insertion et c'est ok, la personne n'a plus besoin d'aide. Comment ça se passe, quoi ? Comment est-ce que vous évaluez l'insertion ?
Alors, c'est compliqué de dire que c'est terminé, parce que je pense que l'insertion, ça prend beaucoup de temps. Et puis, encore une fois, ça dépend ce qu'on entend par insertion. Est-ce que c'est obtenir son permis de conduire ? Est-ce que c'est obtenir un travail ? Est-ce que c'est avoir réglé ses problématiques santé ? Est-ce que c'est avoir réglé ses problématiques logement ? Enfin, voilà, il y a beaucoup de champs à travailler. Donc, je ne suis pas sûre qu'on puisse se dire à un moment donné, voilà, on a fini notre travail. Cela dit, on travaille tous à un moment donné sur un maillon différent, et on sait que notre travail est terminé quand nous, on est allé au bout de notre mission. Je parle par exemple au permis pour l'avenir, quand les gens ont obtenu le permis de conduire, mais pas seulement, quand les gens ont obtenu le permis de conduire avec tout ce que nous, on travaille à côté, c'est-à-dire l'aspect citoyenneté des choses, réapprendre à être présent, à être à l'heure, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont travaillées à côté, et notre mission à nous, elle est terminée quand tout ça est OK et que le permis est obtenu. Mais on sait que l'insertion, elle n'est pas forcément là tout de suite au bout, quoi.
Mais peut être durable.
Vous parliez de citoyenneté dans l'apprentissage. Est-ce qu'on a des conducteurs plus cool chez vous à la fin ? Est-ce que quand on les retrouve sur la route, ils sont plus cool ?
Alors j'espère, parce que vraiment, on y travaille en tout cas. Ça passe par des règles de vie en collectivité. Hein. Nous, quand ils arrivent dans les salles, voilà, des règles toutes bêtes. On essaie de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble, qu'ils s'entraident, qu'ils se disent bonjour. Dans la voiture, effectivement, on travaille là-dessus, surtout que maintenant, dans le nouveau permis de conduire, il y a des points qui sont donnés pour les élèves qui sont plus conciliants que les autres.
D'accord. Très bien. Bon, c'était comme ça, je me disais, si on travaille la citoyenneté, on est au courant quand même que les routes sont un lieu où les gens peuvent se lâcher, faire sortir l'animal qui sommeille en eux. Je me disais, voilà, ça peut être pas mal de travailler effectivement la citoyenneté au volant.
Bah, moi, je pense qu'en effet, on a tous des missions. Hein. Donc, dire que notre mission est réussie, ou que c'est quand la personne, je veux dire, on parle d'autonomie, enfin, c'est quand elle trouve. Moi, pour moi, c'est réussi quand elle sait chercher des solutions et les trouver elle-même. Voilà, moi, mon accompagnement, c'est ça, c'est permettre une palette de solutions, celle qui lui convient le mieux, qu'elle puisse piocher là-dedans. C'est-à-dire, en effet, elle peut très bien avoir son permis de conduire, mais si elle sait utiliser d'autres moyens de se déplacer, qu'elle puisse aller trouver de la solution, qu'elle sache où chercher, parce que c'est aussi ça, quelquefois l'information, où est-ce que je vais la chercher. Voilà, de lui donner les outils, en fait, pour qu'elle puisse après se débrouiller et plus du tout avoir besoin de moi. Donc là, la mission est terminée. Alors, en effet, quand est-ce que ça s'arrête réellement, ça? C'est une bonne question.
Cela dit, ma question n'était pas très sympa, parce que finalement, c'en est presque rassurant que ce ne soit pas une structure ou une personne qui soit en charge de l'insertion complète d'une personne ou autre. C'est plutôt rassurant, d'ailleurs, que ce soit un maillage et plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte, quoi.
Oui. On est que, voilà, c'est l'ensemble qui fait que ça fonctionne, et ce n'est pas une structure qui a la vérité. Ça, c'est sur l'insertion, il faut obligatoirement être modeste, sinon on n'arrive à rien et on va droit dans le mur. C'est pour ça qu'on se, on se contente souvent de micro-autonomie. Voilà, c'est par étapes qu'on avance avec les personnes et on voit, ben voilà, c'est un progrès, plus un autre, plus un autre, qui fait que ça fonctionne bien et qu'au bout d'un moment, les personnes arrivent à se prendre en charge.
J'imagine en plus que tout ça, ça doit se travailler en parallèle avec, effectivement, vous parliez tout à l'heure du logement, de l'aspect sanitaire, en fonction des difficultés que rencontrent les gens. J'imagine qu'un tas de choses se font en parallèle. Du coup, vous avez des échanges, alors bon, là, on est entre gens de la mobilité, mais vous avez des échanges avec éventuellement d'autres suivis, d'autres façons d'autres personnes qui interviennent sur des difficultés des publics que vous recevez. Est-ce qu'il y a des échanges? Comment ça se passe, ce partenariat, ou pas?
Il y a plusieurs types de partenariats là-dessus. Il y a le référent qu'on peut avoir avec la personne, qui peut être soit un travailleur social, mais aussi ça peut être des référents moins formels. Hein. Par exemple, des tuteurs, des personnes qui... des amis de personnes. Enfin bon, c'est pas toujours... le travailleur social, il travaille pas forcément en boucle. Voilà, il faut avoir une ouverture par rapport à ça. Et c'est vrai que le terme générique travailleur social englobe beaucoup, beaucoup de compétences.
Très bien. Oui, donc en effet, ce qui fait la force de notre travail, c'est déjà les personnes qui nous obligent à travailler ensemble, il faut dire ce qui est, parce que quelquefois on ne rencontrerait pas les autres professionnels, et de pouvoir confronter, parce qu'il faut, voilà, l'idée c'est de ne pas saucissonner la personne, c'est-à-dire voilà, telle personne fait que l'emploi, telle personne fait que la mobilité, telle personne fait que la santé, la personne c'est c'est la globalité qu'on voit. En effet, c'est important de pouvoir connaître, d'avoir des échanges sur ce qui nous intéresse pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et ces échanges-là, ils sont importants pour justement ne pas mettre en difficulté déjà dans les actions qu'on peut mettre en place et mettre en difficulté la personne, et vraiment de pouvoir permettre une cohésion dans ce qui est fait avec... Donc c'est important d'avoir ce lien-là, d'échanger avec ses collègues, avec les opérateurs, avec les travailleurs sociaux, avec les tuteurs, avec toute personne qui peut graviter autour, et puis avec la personne elle-même.
C'est vrai que là, quand vous êtes arrivé sur la radio, là, avant l'émission, vous aviez l'air de vous connaître, quoi. C'est oui, bonjour, bonjour, tac, tac. Vous êtes arrivé, Marie-Frédérique et Fatima, un peu avant Olivier, pardon. Vous aviez des choses à vous raconter, quoi. Voilà, ça parlait communication, ça parlait machin, ça parlait truc. Enfin, on sent qu'il y a un lien quand même existant à l'année, quoi, enfin, au quotidien.
Ça rejoint ce que disait Monsieur Etoiti. Croire qu'on peut tout faire tout seul, c'est vraiment n'avoir rien compris. C'est-à-dire que la force, et voilà, moi j'aime bien travailler comme ça, la force c'est tout un chacun, c'est-à-dire aussi bien la personne qui vient nous voir, parce qu'en effet vous parliez de compétences, bien évidemment, c'est pas des personnes qui ne savent rien du tout, on parlait de l'intégration même d'origine, c'est des personnes qui ont une expérience de vie, qui sont arrivées jusqu'ici, hein, il faut pas l'oublier, ils ont utilisé pas mal de moyens, mobilisé pas mal de volonté, mobilisé pas mal de contacts, enfin voilà. Donc toute personne qu'on reçoit a déjà une richesse. Après, en effet, c'est comment lui apprendre et comment l'aider, comment l'accompagner, comment faire en sorte que ces différentes choses qu'il connaît, parce que quand il arrive, c'est pas vrai qu'il ne connaît rien, et il puisse se les réapproprier et puis reprendre confiance en lui. Après, chaque personne qui intervient sur le terrain, bien évidemment, a ses spécificités, mais pas seulement. Il y a une richesse dans les regards bienveillants. Une personne qui rencontre une structure va rencontrer un regard bienveillant qui va le valoriser. L'autre personne qui va le rencontrer, un autre accompagnateur, va avoir ce regard bienveillant. Et je pense que ce qui fait grandir toute personne, c'est aussi ces différents contacts et ces différents regards bienveillants de toutes les personnes qui vont l'accompagner.
Alors la bienveillance, c'est un truc auquel je suis assez sensible, parce que c'est un moteur très puissant, la bienveillance. A priori, quand on porte un regard bienveillant sur quelqu'un, il est plutôt dans une phase où il va donner le meilleur de lui-même quand même. Enfin, nous tous, en tant qu'êtres humains, on aime bien qu'il y ait ce regard bienveillant porté sur nous, donc j'imagine que, enfin moi en tout cas, mais j'imagine que les autres aussi, quoi. Enfin, c'est cette bienveillance, c'est pas du de la sistana, du paternalisme, ou autre chose, c'est la bienveillance. C'est des notions quand même peut-être assez proches dans la façon d'aborder, non pas assez proches d'ailleurs, c'est une façon d'aborder le public, quoi, j'imagine.
Oui, c'est reconnaître aussi que la personne qui est en face de nous, c'est pas parce qu'elle est dans une situation précaire à un moment donné qu'elle a rien à apporter et rien à donner. Donc, et nous, on se nourrit moi aussi de ça. C'est-à-dire que, voilà, bien sûr, il y a des fois où ça ne marche pas, où c'est vraiment on fait confiance et ça marche pas, mais c'est pas pour ça que systématiquement on est dans le voilà dans l'inquiétude. On prend des garde-fous, ça c'est sûr. On n'est pas non plus, on essaie de pas trop se faire berner entre guillemets, mais on a toujours ce truc de se dire, il y a même quand ça va pas, il y a peut-être un truc de positif qui peut permettre de faire rebondir. Et c'est là où le réseau entre guillemets ou la connaissance de l'environnement est important, parce que justement, et ben des fois, faut passer le relais là-dessus pour pouvoir rebondir.
Dans vos champs particuliers d'intervention, y faire sur la mise à dispo, non, la location, pardon, de véhicules.
Faut mieux dire la mise à dispo maintenant pour des questions juridiques. J'ai appris l'autre coup.
D'accord. Alors la mise à disposition de deux roues et le garage participatif. Sur l'auto-école Marie-Frédérique. Finalement, de métier, vous êtes quoi? Vous êtes travailleur social ou vous êtes mécanicien et monitrice d'auto-école? Enfin, parce que c'est important, ça, au bout d'un moment de savoir, c'est si on est plutôt un moniteur d'auto-école qui a un regard particulier ou si on est un travailleur social qui s'est formé à la conduite. Et pareil pour vous, Olivier, dans IFER. Comment ça se passe, du coup, vos profils à vous?
Alors, ce n'est pas le cas dans toutes les auto-écoles associatives. En tout cas, moi, je suis devenue responsable du secteur permis pour l'avenir, mais j'ai un diplôme au départ de monitrice auto-école. C'est-à-dire qu'effectivement, je pourrais travailler dans une auto-école traditionnelle, sauf que j'ai fait le choix, dès le début de ma carrière, de commencer au sein d'une auto-école associative, puisque ça fait 12 ans que j'y suis maintenant. Et donc, j'ai commencé par moniter, effectivement, et par donner des cours de code.
Très bien, Olivier.
Moi, c'est un parcours de vie, je dirais, parce que j'ai plutôt eu une formation de... J'ai un bac de construction mécanique, donc plutôt dessin industriel, conception. Je suis un passionné du deux roues à la base, donc voilà. Et puis, j'ai un passé d'animateur socio-éducatif. J'ai fait un peu de l'éducatif. J'étais moniteur éducatif. J'étais formateur, voilà. Et ce qui fait qu'on brasse un peu tout ça et on se retrouve, mais autour de ça... c'est l'être humain. C'est, voilà. Après, qu'on soit le titre qu'on le met, on peut mettre ce qu'on veut, mais ce qui nous intéresse avant tout, nous, c'est l'être humain et c'est l'homme qui est au milieu. C'est le support après qu'on prend qui fait que voilà, c'est le 4 roues, c'est le 2 roues, c'est la mécanique, c'est pour d'autres, c'est autre chose. Mais au départ, c'est ça. Et on le voit sur beaucoup de structures un petit peu hors normes, entre guillemets. Avant tout, c'est souvent des histoires humaines.
Très bien. Fatima, vous êtes travailleuse sociale.
Ah oui, travailleuse sociale, oui, en effet. Donc oui, je viens de l'insertion, justement de l'insertion sociale, on va dire. Donc j'ai travaillé dans tout ce qui est structure d'insertion, hein, le fameux 115, comme on l'appelle, toutes les structures d'hébergement qui puissent exister. Ensuite, dans l'insertion médico-sociale, puisque dans le champ du sanitaire également. Et en effet, comme disait Monsieur Etouati, oui, cette action associative, c'est vraiment l'être humain, la richesse de ces échanges-là, le lien social. C'est vraiment ce qui fait un peu... la valeur de ce travail-là, c'est le lien social, c'est la relation à l'autre, c'est encore une fois ce regard bienveillant par rapport. Voilà, toute personne, quelle que soit sa difficulté, de ses origines, d'où il vient, il doit trouver sa place dans cette société. Et l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir l'aider tel qu'il est à trouver sa place aussi.
Moi, j'entends en tout cas à travers vos trois réponses, même si elles sont un peu différentes, c'est l'humain au cœur de la préoccupation. Je vous propose de repartir en musique et nous nous retrouvons juste après. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need. I've got to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love. I've Le célèbre I Want to Break Free, alors bien entendu pas chanté par Queen, mais par Arnaud. Voilà, quelle drôle d'idée. Je vous propose tout de suite que nous écoutions un deuxième extrait des propos recueillis par Hacquet hier dans les rues hébroïciennes.
Et quels sont les freins de l'insertion pour vous ?
Le frein majeur de l'insertion, c'est souvent les préjugés, le regard que les gens ont sur un certain nombre de catégories sociales. Alors que ça soit donc au niveau des immigrés ou des citoyens, c'est des citoyens en fait qui sont issus de l'immigration.
Les freins de l'insertion, c'est les patrons qui jouent pas leur rôle. Et puis par rapport à la couleur de la peau des personnes, par rapport à leur ethnie, par rapport à pas mal de choses, ça c'est un frein aussi à l'insertion. Pour beaucoup de patrons. Pour beaucoup de patrons, non. Pour les jeunes, vis-à-vis des patrons.
Les freins, ah, je ne sais pas. C'est sûrement les pouvoirs publics. Hein.
Et les enjeux de la mobilité.
Parce que je pense que si les pouvoirs publics en faisaient un petit peu plus, il n'y aurait peut-être pas besoin d'insertion déjà, parce qu'ils s'occuperaient des gens en difficulté eux-mêmes. Heureusement que les associations les remplacent, quoi. Enfin, moi, je pense ça toujours.
Alors là je vais revenir pareil ouais, sur l'emploi aussi. C'est vrai que c'est difficile de trouver surtout un CDI en ce moment. Donc rien que pour les jeunes qui galèrent à trouver des boulots alors qu'ils ont des diplômes. Et c'est vrai que c'est dégueulasse faut le dire hein. C'est vrai que ça démotive beaucoup de jeunes. Mais bon faut s'accrocher. Après c'est sûr que faut bosser pour réussir et, mais bon, mis à part ça l'insertion ouais, c'est vrai que ça reste difficile surtout pour les jeunes je pense.
Voilà. Bah, les freins d'insertion, ça peut être déjà la personne concernée par des questions propres à elle-même, des gens qui ne souhaitent pas s'intégrer ou qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas envie de travailler. Ça peut être dans les deux sens. Et les patrons qui n'ont pas envie de faire d'efforts, ça peut être dans les deux sens. Quoi. C'est une question de bonne volonté, en fait, l'insertion de tout le monde. Quoi. Voilà.
Voilà, propos recueillis par Hacquet dans les rues hébroïciennes. Juste hier, nous sommes toujours en direct. La petite bête sur le fil va parle et continuera de parler encore pour la demi-heure qui vient d'insertion et de mobilité. Autour de nos micros, nous avons Marie-Frédéric Bonin, responsable du secteur permis pour l'avenir de la MJC Le Bel et Bas à Évreux. Fatima Haït Wellal, directrice de la plateforme de mobilité WeMove. Et Olivier Etouati, directeur de IFER. Des réactions sur ce que nous venons d'écouter autour des freins de l'insertion.
Oui, juste deux, trois remarques. C'est juste la personne qui dit sur le CDI, c'est vrai qu'il y a une espèce de mythe sur le CDI. Tout le monde veut un CDI. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit encore d'actualité aujourd'hui, mais bon, ça existe ça. Et puis, là, encore une fois, insertion... On parle pour beaucoup de l'insertion, ces populations, les étrangères. Bon, alors que c'est qu'une partie des personnes en difficulté. Et voilà.
D'autres remarques ?
Oui, oui. C'est dans les, encore une fois, c'est vraiment dans les représentations. Et encore une fois, ça suit un petit peu tout ce qui est médiatisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'insertion, c'est l'emploi, la difficulté avec les populations d'origine immigrée ou migrante. Donc, voilà.
C'est une préoccupation importante quand même, l'emploi, même pour les personnes qui n'ont pas de problématiques particulières d'insertion, de mobilité ou autre, ça reste quand même une préoccupation. Mais aujourd'hui, même les gens qui sont en poste se posent déjà la question de savoir, mais que vais-je devenir demain ?
Oui, mais parce que c'est une réalité. Enfin bon, là quand même, la France a perdu un certain nombre d'emplois industriels. C'est quand même des emplois qui permettaient à des gens peu qualifiés d'accéder à l'autonomie et à l'emploi. Bon, c'est vrai que tout le monde ne peut pas être prestataire de service et tout le monde ne peut pas être dans le service. Donc au bout d'un moment, et effectivement, il va quand même falloir se poser la question... un peu plus loin, un emploi, est-ce que c'est le partage de l'emploi qu'il faut ? Est-ce que c'est une redistribution ? Voilà, je ne sais pas forcément les solutions. Mais...
Parce que ça doit être aussi frustrant pour vous qui travaillez sur l'insertion de manière globale, mais du coup aussi l'insertion professionnelle, parce que finalement on demande aujourd'hui à des gens de préparer des gens à aller prendre un poste, mais il n'y a pas ce poste en face. Voilà. C'est-à-dire que c'est une chaise, c'est des chaises tournantes, quoi, des chaises musicales, pardon. C'est un constat que j'avais eu sur un forum d'emploi où on expliquait aux jeunes toutes les techniques pour bien présenter, présenter un CV, tout ça, mais finalement on prépare mieux les gens, mais il n'y a pas plus de postes. Oui. Je ne sais pas si c'est...
Oui, mais à contrario, si on ne les prépare pas, on est sûr qu'ils n'iront pas. Voilà. Oui. Donc l'idée, elle est aussi là. Ce n'est pas parce qu'ils sont prêts que ça va marcher, mais au moins, ils sont prêts.
Oui, voilà, il vaut mieux être prêt de toute façon. Oui.
Et dans tous les cas, c'est toujours positif, même si effectivement, c'est décevant, là, parce qu'on a tout bien et que ben, le problème, c'est que ça ne dépend pas de nous.
Parce que ça peut être une frustration, j'imagine, après, là, le permis pour l'avenir. Voilà, on prépare des gens qui en plus se projettent. Voilà, avec un permis, je pourrais travailler. Avec un permis, je pourrais voilà, avoir un emploi dans telle ou telle chose. Et puis, bon, ben, la part du contrat permis est remplie au bout d'un moment, quitte même à ce que ce soit au bout de 150 heures, comme vous nous le disiez, Marie-Frédérique. Mais en tout cas, c'est voilà, là, au bout d'un moment, l'effort est produit. Le diplôme du permis, enfin, c'est pas un diplôme d'ailleurs, c'est un brevet, enfin, je sais pas comment, c'est un permis.
C'est un diplôme,
c'est un diplôme. D'accord. Donc, le diplôme du permis est obtenu, c'est-à-dire qu'on a envie de dire la personne a produit un effort, a produit un travail, et puis finalement, la réponse n'est pas toujours au bout de eh ben oui, maintenant que tu es mobile, tu peux trouver un emploi. Non, maintenant tu peux chercher. Non, mais j'imagine que ça peut être frustrant aussi quand on est sur le terrain à travailler et puis se dire ben voilà, un tel a développé des compétences, a fourni un effort qui n'est pas toujours. Qui est un bel effort parfois, voilà. Il n'y a pas forcément le truc au bout.
Tout à fait. En fait, effectivement, on sait bien que ce n'est pas l'obtention du permis de conduire qui va forcer l'emploi tout de suite derrière. Déjà, il y a d'autres raisons. Hein. Le permis de conduire nécessite derrière un budget pour obtenir une voiture, être capable d'entretenir une voiture. Donc, le permis de conduire n'est pas forcément la finalité et la solution pour trouver un emploi. Après, on sait que sur un CV, par exemple, inscrire permis B en haut à droite... C'est presque indispensable maintenant pour être reçu à un entretien. Donc voilà, mais ça ne veut pas dire effectivement que les gens vont avoir un emploi et un emploi pérenne encore moins. Donc on le sait. Et puis malgré le permis de conduire, il y a aussi parfois d'autres soucis qui sont des problèmes de qualification ou des problèmes de mobilité. Parce que même si les gens ont le permis de conduire, il y a des gens qui ne veulent pas aller travailler très loin, même avec le permis de conduire. Voilà. Donc,
Ça m'amène tout naturellement sur la transition, sur la chose qu'on a déjà abordée rapidement. Mais là, on parle beaucoup de techniques de mobilité. Tout à l'heure, on a évoqué la difficulté de mobilité psychologique. Le fait de se dire, ben voilà, je vais au-delà de ce que je connais. La violence de se dire, au bout d'un, enfin, pas la violence, mais le coup de pied aux fesses, quoi, au bout d'un moment, qui se dit, ça peut être, oui, même ressenti comme une violence éventuellement, de se dire, ben, je vais dans un endroit inconnu, je vais dans une grande ville. Voilà, par exemple, j'ai mon permis, je conduis, mais je conduis autour de chez moi, et d'un seul coup, il faut que j'aille travailler, ne serait-ce qu'à Rouen, par exemple. Voilà. Tout ça, ce sont des difficultés psychologiques. Qui sont peut-être plus difficiles à travailler, non, que les difficultés techniques, non ?
Ça se travaille pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que les problèmes techniques, on apporte des solutions techniques, on apporte des objets, on a voilà un permis, un cyclo. Voilà. Sur les problèmes psychologiques comme ça et qui sont liés au comportement aussi de la personne, on essaie plutôt de le travailler en groupe. En groupe, justement, pour que les personnes se rendent compte, puissent voir à côté qu'il y a aussi des gens qui sont en difficulté, qui peuvent apporter des choses, qui ne sont pas que demandeurs. Hein, ce qu'il faut, c'est toujours qu'il y ait cet échange pour que les personnes puissent avancer. Je pense que à partir du moment où la personne sent qu'elle peut apporter quelque chose et que du coup, bah, elle est aussi importante que celle d'à côté, elle aura beaucoup plus envie de progresser et de se donner de nouveaux challenges. Tiens, oui, ça, je peux le faire. J'ai essayé, on m'a aidé, bah, du coup, je peux le refaire tout seul et je peux avancer. Mais effectivement, je crois que là, le côté frein psychologique doit se traiter à plusieurs.
Est-ce que c'est dans cette démarche de bah, voilà, j'ai une réussite et une fois que je suis dans cette spirale de réussite, on parle des fois de descente sur des pentes savonneuses ou des situations qui s'empirent de jour en jour. Est-ce que voilà, il y a une spirale inversée qui pourrait être, ben voilà, je suis en phase de réussite, alors je vais chercher ma deuxième situation de réussite, ma troisième situation de réussite, et finalement, je suis dans une dynamique de réussite.
Bah, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas.
Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. On parlait de d'insécurité, où qu'on soit, que ce soit dans l'emploi, que ce soit dans n'importe quel domaine, en réalité, il y a une certaine insécurité. Donc, du coup, de rester dans le lieu où on connaît les gens, où on connaît les rues, où on sait où aller, où on sait... Du coup, ça sécurise. Et forcément, aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas devient quelque chose de très angoissant. Ne serait-ce que de demander... On reviendra toujours, je pense, sur... Vous parliez tout à l'heure des sites de covoiturage. Enfin, on va reparler du lien social.
C'était hors antenne, hein, tout ça.
Voilà. Mais voilà, aujourd'hui, demander son chemin lorsqu'on est perdu, c'est très... Dès qu'on s'approche de quelqu'un, il a l'impression qu'on va lui demander autre chose. Donc, ça devient angoissant. On se dit, mais si je suis perdu, à qui je vais m'adresser? Est-ce qu'on va me montrer mon chemin? Enfin, est-ce que je vais trouver un lieu où je vais avoir une réponse? Mais c'est vrai que c'est ce qui est angoissant. Donc, du coup, travailler les freins, de pouvoir se projeter. Puis, comme on disait tout à l'heure, ça fait aussi appel à des compétences, encore une fois. C'est-à-dire qu'il faut que j'anticipe. Il faut que, avant même que se déplacer, c'est ça. Je vais anticiper, je vais chercher où est-ce que je vais, si jamais j'ai un problème, qui je vais interpeller, quelle solution je peux avoir. Voilà, ça demande énormément de choses à des compétences à mobiliser. Voilà. Donc, l'organisation, la prévision, l'anticipation, toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est en effet dans des échanges de solutions, échanges avec les autres, quelle solution la personne qui a été dans une situation X a vécu, donc du coup, elle fait un partage d'expérience. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut travailler ces freins-là.
Très bien, je vous propose une dernière pause musicale et puis nous revenons juste après pour la dernière partie de cette émission. Rodrigo et Gabriella avec un cover Starway to Heaven. J'aime bien, voilà. Vous êtes toujours à l'écoute de La Petite Bête sur le fil. Nous parlons aujourd'hui insertion et mobilité autour des micros pour la toute dernière partie. Ça fait maintenant une heure et quart que vous êtes, que nous sommes ensemble. Marie-Frédérique Bonin, responsable du secteur Un permis pour l'avenir, MJC Béléba, Évreux. Bien joué, hein?
C'est ça.
Fatima Haït Wellal, directrice de la plateforme de mobilité WeMove. Olivier Etouati, directeur de l'association IFER à Évreux aussi. Oui, je vois pas pourquoi est-ce que je dirais la MJC Évreux et pas IFER Évreux. Vous voyez,
bah, c'est parce qu'IFER en fait.
Parce qu'il y a Louvier.
Voilà.
Voilà,
alors nous aussi on intervient c'est... à
Verneuil. Ouais.
Bah, arrêtez de vous jeter, ouais, nous aussi on fait, et oh, tout s'est bien passé depuis le début, on va essayer de continuer. Je vous propose tout de suite qu'on réécoute le dernier enregistrement de Hacquet qui nous amènera à de très rapides réactions sur le lien entre mobilité et insertion.
Bah, les enjeux de la mobilité et de l'insertion, c'est demain je perds mon travail, je suis artisan bottier. Je vais me réinsérer, je vais rapprendre, je vais faire des formations. Et si je n'ai pas de boulot ici dans le département de l'Eure, la mobilité, c'est de partir ailleurs pour me refaire une vie et un nouveau travail.
Alors les enjeux, c'est essentiellement essayer d'éviter de marginaliser au maximum certaines catégories sociales et plus essayer de les inviter à participer activement à la société et au développement de la société.
Bah, c'est la possibilité de se déplacer et pourquoi pas même voyager à l'étranger, à l'international, pour pouvoir trouver faire sa place en fait et s'intégrer pourquoi pas même carrément à une autre culture.
Penser au déplacement. Oui, qu'il faudrait aider les jeunes à se déplacer quand ils n'ont pas le permis, oui. Et faciliter l'accès au permis de conduire.
Voilà, ça recoupe quand même certains thèmes que nous avons déjà évoqués durant cette émission. Une réaction sur ce que nous venons d'écouter. Voilà, il nous reste très peu de temps, donc c'est oui ou c'est non, sinon on continue d'avancer. Voilà, je voulais aborder un dernier thème. Quand on parle régulièrement d'insertion, d'accompagnement des publics, une question parfois peut surgir, et je vais vous la poser parce que je l'ai déjà entendue. Est-ce qu'on est dans l'autonomie, ou enfin dans l'accès à l'autonomie, ou est-ce qu'on est dans l'insistanat des publics quand on leur propose voilà de passer l'année à passer le permis de conduire, quand on leur propose des véhicules à coût, enfin on peut même pas parler de coût, on peut parler à peine de coût réel, quoi, pas de location,
oui.
Quoi.
Oui,
vous j'imagine que vous avez des subventions pour faire fonctionner vos structures, donc on est même en dessous du coût réel sur le public, parfois même sur des services, alors pas forcément chez vous, mais des services de gratuité. Est-ce qu'on est, voilà, au bout d'un moment, dans l'autonomie ou de l'assistanat, et où en est la limite pour vous?
Notre objectif, à nous, de toute façon, c'est de les rendre autonomes. Notre travail, c'est celui-ci. C'est absolument pas les rendre dépendants de nos structures et de les voir revenir pendant 10 ans. C'est pas l'idée du tout. Après, ça prend parfois beaucoup de temps et il faudra que les gens passent par plusieurs structures et soient énormément soutenus, accompagnés pour beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure de mobilité psychologique. Effectivement, il y a des gens qui ne sont pas mobiles parce que c'est la peur de l'inconnu, c'est-à-dire que ce qu'on ne connaît pas fait peur, et à partir du moment où ils sont accompagnés dans une démarche de mobilité ou autre, les gens sont en général en capacité de le refaire tout seul derrière. Donc effectivement, on ne peut pas parler d'assistanat. On montre le chemin, mais on n'assiste pas.
C'est quand même les personnes qui font, c'est pas nous. Nous ne sommes que des outils, mais c'est bien les personnes qui font. Et bon, voilà, ce serait de l'assistanat si on faisait à la place d'eux. Mais en aucun cas, si la personne respecte pas les règles, on arrête ce qu'on a entrepris. Donc voilà, il y a des règles, il y a un engagement réciproque. Donc non, c'est vraiment pas de l'assistanat. On n'est pas là pour plaindre les gens. Les gens sont dans une certaine situation. On fait en sorte qu'ils en sortent le mieux possible, mais en respectant et les règles et les autres.
Oui, c'est sur un mode de participatif. Hein. Donc, en effet, les personnes, on dit toujours acteurs. acteurs de leur projet. Mais voilà, c'est-à-dire que quand ils viennent nous voir, c'est pas bonjour, je viens. Ça arrive, hein, je veux une solution. Est-ce que vous en avez une? Je leur réponds, on leur répond tous. Nous, on est là pour vous aider à en trouver une, justement, pour vous aider, donner les outils pour que vous puissiez trouver celle qui est adaptée à votre situation, à votre contexte, où est-ce que vous vivez, de quoi est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous allez expérimenter. Mais voilà, mais c'est vraiment pas, comme disait Marie-Frédérique, l'objectif, c'est pas de rendre dépendants les personnes et de faire à leur place ou de les assister, c'est vraiment de les rendre acteurs et qu'ils fassent, voilà, qu'ils expérimentent, qu'ils reprennent confiance en eux et puis qu'il y ait encore une fois ce regard bienveillant en disant, mais si l'autre a réussi, dans ta vie, t'as quand même fait des choses. Parce que quand on parle de bilan de compétences mobilité, quand on discute de leur, quand on a un parcours de vie qui est assez chaotique, parce que les personnes, voilà, ont déjà fait des choses qui sont valorisantes, de pouvoir réveiller aussi cette expérience qu'ils ont pu vivre, c'est-à-dire avoir déjà conduit un scooter, par exemple, une personne qui avait 50 ans, là, que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, bah, elle me dit oui, quand j'étais jeune, j'avais une mobilette. Mais vous n'avez pas pensé aujourd'hui? Ah ben non, j'avais pas pensé à la mobilette, en effet. Ben voilà. De lui dire, bah, il existe un acteur sur le territoire qui peut vous mettre à disposition une mobilette, et puis comme ça va vous permettre de recréer votre parcours de mobilité, d'avoir justement un travail et de l'argent, de pouvoir après passer votre permis de conduire, donc là, à nouveau à notre partenaire. Enfin voilà, on les rend vraiment acteurs et c'est pas assisté, on fait pas leur place. C'est eux qui montent sur le deux roues et qui réexpérimentent
Et qui sont responsables.
Et qui, voilà, ils sont responsabilisés, c'est eux qui passent leur permis, donc avec cet apprentissage, ce travail quand même s'ils sont accompagnés, où ils vont venir à toutes les séances, où ils vont donner de leur personne, enfin, voilà, on est vraiment dans un échange et dans l'accompagnement et pas dans l'assistanat. Être assisté, ça serait, bah voilà, moi je trouverais une solution. Comme je vous disais tout à l'heure, une personne qui vient nous voir nous dit, bah j'ai un problème de mobilité, bah j'ai une voiture, venez monter, je vais vous emmener. Donc là, ça serait assisté. Mais là, c'est vraiment de rendre les personnes autonomes et de se débrouiller.
Justement, il est l'heure, il nous reste 4 minutes pour conclure cette émission. Il est l'heure, j'ai envie de dire, de passer les dossiers qui traînent encore sur notre table radio. Il y en a un seul qui traîne encore, moi, sur la table. Nous sommes rencontrés, Fatima, autour d'un micro au mois de juin, je crois, de cette année. Je vous avais posé une question et vous m'avez dit, mais ça, faudrait voir ça avec qui faire. Je propose que vous soyez, Olivier et Fatima, tous les deux en face de moi, pour réitérer ma question. C'était sur des histoires de mobilité, voilà. La question était, nous étions dans des exemples très concrets de comment faire quand on a un problème de déplacement, ceci, cela. Et je vous avais dit, j'avais un problème qui était... je suis boulanger-pâtissier avec des horaires de travail particulières qui ne correspondent pas au transport en commun. J'habite entre Évreux et Saint-André-de-l'Eure, donc vous voyez, il y a toute une zone. Je n'ai pas de moyen de transport. Quel type de solution est-ce que voilà, votre réseau mobilité, quel type de solution le réseau peut m'apporter? Et vous m'aviez renvoyé vérifier en me disant bah, ça, il faudra voir ça avec qui faire.
Voilà, tout à fait. Je vous avais dit, écoutez, il y a un acteur sur le territoire qui peut répondre à ce besoin que vous avez, puisque vous n'aviez pas le permis de conduire.
Absolument.
Pour l'instant. Donc voilà, je vous ai renvoyé vers l'acteur principal sur cette action, qui était l'association IFER.
Alors, est-ce que c'est tout à fait le genre de cas concret que vous accueillez, quoi, des personnes de ce genre-là? Et quelles solutions vous apportez
en 30 secondes,
s'il vous plaît.
On est en plein dedans. Voilà, il y a un seul frein. Là, c'est le moyen de transport. On le met à ma disposition en sachant qu'effectivement, chacun de roule, on peut faire beaucoup de kilomètres en une journée. Et après, là encore, c'est une histoire de motivation de la personne. Hein, si la personne elle est motivée, parce qu'effectivement, là, il fait beau, c'est chaud. Hein, l'hiver, c'est un petit peu différent. Mais avec un équipement, ça peut très bien se traiter. Et encore une fois, ça peut être qu'une situation temporaire. La personne accepte le contrat, va en mob 2-3 mois, elle a 3 mois de salaire, ben voilà, elle peut passer. Elle est en capacité de passer son permis, d'acheter sa voiture, mais éventuellement. Hein. C'est pas parce qu'on est en cyclo à un moment donné qu'on y est tout le temps.
Très bien. Vous voyez, j'ai finalement eu ma réponse, Fatima. Ça a mis un certain temps, mais je l'ai obtenue. Dernier sujet, demain se tient la fête de la mobilité, la journée du transport. Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu le programme? Est-ce qu'il va s'y passer? On se fait un format 2 minutes aussi, on va essayer de ne pas déborder.
Oui, donc demain, sous l'égide du Grand Évreux Agglomération, il y a la journée du transport public qui coïncide cette année avec les journées du patrimoine. Donc ça a été l'occasion de pouvoir un peu fusionner les deux événements. Donc à cette occasion, il sera proposé sur la journée de demain, le 20 septembre, des animations communes aux deux manifestations. Alors à 13h, sur la place de l'Hôtel de Ville, il y aura des stands d'information et d'essais avec les associations du territoire travaillant sur la mobilité. Donc des essais de cyclopousse avec l'association Cicérone, stand de diagnostic des deux roues, donc toujours avec l'association Cicérone, et la possibilité de louer des vélos pour la visite guidée, et c'est pour le public à partir de 10 ans. Il y aura des informations aussi sur Atoumode et les offres de transport du Conseil général hein, sur le territoire. Il y aura des informations sur les actions des opérateurs mobilité sur le territoire par le biais de la plateforme mobilité. Il y aura aussi des informations sur les offres en matière de tourisme. Il y a aussi à 14h un départ en balade vélo à la découverte des monuments d'Evreux. Donc le départ se fera devant l'office du tourisme. Ce sera une visite guidée des principaux monuments du centre-ville. Et c'est un circuit d'à peu près 1h30 dans le centre de la ville. Il y aura aussi une visite à pied du Moulin de Navarre où seront organisées des visites et activités pour les enfants dans le cadre des journées des patrimoines. Donc il y a un retour qui est prévu vers 18h. Donc pour tous ces événements-là, à partir de 13h, les inscriptions peuvent se faire sur place. On peut aussi se renseigner à l'Office du tourisme. Voilà ce que je voulais
Mais
dire.
Mais c'est demain, hein?
Oui, c'est
On
demain.
Peut se dépêcher.
Il faut se dépêcher.
Voilà, à partir de 13h, sur la place de l'Hôtel de Ville, en tout cas, c'est un point de ralliement, j'ai envie de dire.
Oui, tout
pour,
à fait.
Pour participer à cette manifestation. Voilà, l'émission touche à sa fin. Nous avons passé 1h30 avec Marie-Frédéric Bonin. N'enlevez pas le casque, Fatima, vous allez intervenir un dernier mot à la fin. Marie-Frédéric Bonin, responsable du secteur permis pour l'avenir, MJC Bel et Bas. Fatima Haït-Wellal, justement, directrice de la plateforme de mobilité WeMove. Olivier Etouati, directeur de l'association IFER. Je vais vous laisser... peut-être dire où est-ce qu'on peut vous contacter en 3 secondes et demie, où est-ce qu'on peut rentrer en contact avec vous, soit pour avoir des informations, pour échanger sur la mobilité, en tout cas voilà, pour s'approcher un peu plus près de vos structures. Marie-Frédéric.
Alors il y a deux possibilités, pour le permis pour l'avenir en tout cas, il suffit de s'adresser aux travailleurs sociaux qui suivent votre projet d'insertion ou venir directement au permis pour l'avenir qui se trouve non plus dans le bâtiment de la MJC, mais au 59 rue Saint-Germain à Navarre.
Vous êtes sorti de la cave ?
On est sorti de la cave.
C'est une bonne nouvelle.
Enfin.
Fatima ?
Alors, pour la plateforme mobilité, je suis hébergée par l'hôtel d'agglomération qui se trouve rue Voltaire à la Madeleine. Et il y a un site internet aussi, il faut juste taper WeMove, W-I-M-2-O-V. Et il y a différentes informations sur le site. Mais sinon, je suis à l'hôtel d'agglomération.
Très bien, Olivier.
Donc, pour nous trouver à IFER, donc soit à Évreux, on est espace Saint-Léger, 9 rue Vigor à Évreux. Le téléphone, bah, vous pouvez le trouver sur l'annuaire, donc je ne vous le dis pas. Et sur Louviers, on est en plein centre de Louviers, au 9 rue aux Coques.
Très bien.
Et une dernière chose, il y a aussi l'association Cicérone qu'on peut retrouver donc, pour la vélo-école et pour la vente et la mise à disposition de vélos à la Pépite à Netreville.
Et je voulais juste rajouter qu'il fait, on peut y aller au moins pour le garage participatif si oui. On n'est pas prescrit par Bien quelqu'un sûr. Pour aller bricoler voilà. Collectivement.
Et si on veut causer deux roues, si on veut causer compétition, c'est vrai qu'on court avec des jeunes, avec des scouts en endurance. Donc voilà, c'est ceux qui aiment les deux roues et les choses qui font un peu de bruit sont les bienvenus.
Très bien, bah merci à vous, tous les trois en tout cas, d'avoir répondu présent à notre invitation. Cette émission vous a été préparée bah justement par Fatima, parce qu'on fait participer nos invités. C'est vous qui avez concocté ce plateau d'invités, c'est vous qui avez échangé avec moi sur ces thèmes que nous allions aborder. Merci à vous pour la préparation de cette émission. Nous avions également Hacké qui a réalisé les micro-trottoirs que vous avez entendus. Moi c'est JC et c'était la petite bête sur le